Allez, c'est parti pour le pressing du jour. Avec Omblin Roche et Paul Lassen, on commence par les unes de vos journaux. Ça passe ou ça casse? Voilà l'avertissement du jour en une de la Dépêche du Midi, dans l'attente de ce qui va se dessiner en cette semaine cruciale sur le front du Covid. La traque du mutant, titre La Provence, tandis que La Marseillaise parle de grand emballement. Aujourd'hui en France, s'intéresse aux cantines scolaires, des clusters en puissance, écrit le quotidien. Sud-Ouest met en avant le malaise étudiant. Et puis le Télégramme se demande si le vaccin ne sera pas bientôt obligatoire pour aller au restaurant ou bien dans les festivals cet été. À ce stade, l'idée est écartée par le gouvernement, mais elle fait son chemin et les professionnels, écrit le journal, notamment pour les boîtes de nuit ou les concerts, y sont plutôt favorables. Le Figaro donne la parole aux enseignants près de 3 mois après l'assassinat de Samuel Paty et évoque l'autocensure à laquelle certains sont contraints sur certains sujets. Enfin, vous verrez dans beaucoup de vos journaux ce matin le visage de Georges Pernoux, le créateur et présentateur de Thalassa, dont on a appris la mort hier. Le visiteur d'horizon amoureux de la mer, écrit Ouest France. Georges Pernoux quitte le navire dans le Figaro. Bon vent, capitaine, le titre du Parisien. Et voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Tiens, on va commencer avec vous, Paul, et nous allons en Chine.
Oui, c'est une reconversion plutôt inattendue que nous raconte le quotidien économique La Tribune. Ma Baoli est policier au début des années 2000 en Chine et pendant 12 ans, dans le secret le plus total, il tient sous pseudo un blog dans lequel il parle ouvertement de son homosexualité. Alors à l'époque, les homosexuels ne disposent pas de lieu de rencontre en Chine. Les gens se donnaient des rendez-vous en écrivant sur les murs des toilettes, raconte-t-il. Alors petit à petit, ce blog devient un forum populaire auprès de la communauté LGBT avec des articles, des conseils et des récits. Mais avec l'intérêt des médias, la seconde vie du policier finit par être dévoilée et Ma Baoli quitte les forces de l'ordre en 2012. Et la même année, il se dit qu'il veut continuer son aventure et lance une appli de rencontre LGBT en Chine. Il y a donc près de 10 ans. L'appli se présente sous la forme d'un menu déroulant où apparaissent les photos d'utilisateurs qui sont près de vous, exactement comme ce qu'on peut utiliser en France. Et dans un pays plutôt conservateur, eh bien on veut parler d'un véritable carton, puisqu'aujourd'hui, l'appli revendique plus de 58 millions d'abonnés. Alors la grande majorité en Chine, mais aussi dans le reste de l'Asie, en Inde, en Corée du Sud ou en Thaïlande, des pays pas forcément réputés pour leur ouverture d'esprit. Succès populaire donc, mais aussi succès économique, puisque la maison mère qui possède cette application a fait son entrée au Nasdaq, bourse à dominante technologique de New York en juillet dernier, après une levée de fonds de 85 millions de dollars. Une réussite qu'on peut qualifier d'étonnante pour une entreprise originaire d'un pays considéré socialement comme conservateur. Un succès aussi, et il tient à le signaler pour les millions d'homosexuels en Chine. Beaucoup d'utilisateurs ont écrit à Ma Baoli pour le remercier de les avoir mis en relation avec l'amour de leur vie. Et petite anecdote qu'il raconte, il garde toutes les lettres qu'il reçoit sur son bureau.
Et le régime laisse vivre cette application, on comprend.
Pour le détail, il est quand même, lui, installé aux États-Unis, dans la Silicon Valley.
Ah oui, effectivement. Oui, l'application n'est pas hébergée à l'étranger.
Voilà, mais l'appli n'est pas interdite en Chine.
Très bien. Et Paul, vous nous parliez par ailleurs de ces incidents hier à la Réunion avec ces candidats de télé-réalité. Il y a eu un dernier épisode.
Oui, suite à une bagarre hier entre les candidats des anges de la télé-réalité et le maire et la famille du maire d'une petite ville de la Réunion, eh bien la production de l'émission a tout simplement décidé d'annuler le tournage pour calmer un peu les tensions qu'il y avait sur place.
Voilà, hop, télé-réalité, les anges, ciao. On évoquait la mémoire de Georges Pernoux, cette figure de la télévision et de l'émission Thalassa pendant 42 ans. Georges Pernoux qui est mort dimanche à l'âge de 73 ans. Vous vous souvenez de la péniche Thalassa? Elle était tout proche, en bas de chez nous, là, au pied pas très loin des studios d'Europe 1 et au pied du siège de France Télévisions, amarrée au bord de la Seine. Cette péniche aménagée en studio dans laquelle Georges Pernoux tournait ses émissions. Alors, il l'avait fait construire sur mesure. Et ce n'était pas seulement un plateau télé, c'était aussi les bureaux de l'émission avec salle de visionnage, salle d'archives dans la cale. On apprend tout ça sur le site du Huffington Post. Les conférences de rédaction avaient lieu à bord et une quarantaine de personnes y travaillaient. Alors, que devient cette péniche aujourd'hui? Eh bien, elle a été vendue, elle a quitté son port d'attache du quai de Javel. Mais c'est pour la bonne cause. En décembre 2019, c'est une association qui a récupéré cette péniche, association d'aide à la réinsertion d'anciens détenus. Le Wake Up Café, 6 mois de travaux, et la péniche Thalassa est devenue un restaurant associatif qui peut accueillir 500 personnes et qui permet à des personnes donc en réinsertion d'apprendre les métiers de la restauration. Et depuis, du coup, une fois les travaux terminés, la péniche a fait son retour. Mmh. Elle est revenue dans le port de Javel, donc à Paris. Et le carré Thalassa, où s'asseyait Georges Pernaut avec ses invités, où étaient tournées les émissions, bien, a été conservé. Voilà. Donc, pour le souvenir, l'association se dit très fière de cet héritage. Et la péniche n'a pas changé de nom. Elle s'appelle toujours Thalassa. Voilà, vous la trouvez à Paris si vous voulez aller boire un verre. Et pensez à Georges Pernaut. Omblin, on va terminer en musique.
Oui, avec Le Figaro qui publie le palmarès des chanteurs qui ont le plus vendu de disques l'an dernier, malgré la situation. Un mot pour commencer sur la méthode de comptage, puisque dans le monde d'aujourd'hui, il ne s'agit plus de connaître le nombre de CD de 33 tours vendus chez le disquaire. On ajoute à ces ventes physiques celles effectuées en ligne, c'est-à-dire les téléchargements et les streams. Un savant calcul qui nous donne un résultat et qui nous dit que, bien sûr, le rap se taille la part du lion comme les années précédentes, mais la variété, la pop, le rock font de la résistance. Et si le public plébiscite surtout des artistes francophones, certains piliers restent inébranlables. Les baby boomers ont, on va dire quoi, les plus de 40 ans, se sont précipités sur le nouvel album d'AC/DC, et aussi sur celui de Johnny Hallyday. Dans le rayon des artistes
qu'on pouvait acheter en vinyle si on voulait rester dans
évidemment,
le...
Évidemment, voilà. on peut acheter beaucoup de disques, même les tout nouveaux, même les albums de rap, évidemment. Dans le rayon des artistes qui, malgré les années qui passent, restent infatigables. C'est une très belle réussite pour Indochine avec un best-of, figurez-vous. La bande de Nicolas Sirkis sait se réinventer et la nouvelle version de Troisième Sexe avec Christina and the Queens plaît aux ados, comme quoi c'est dans les vieux pots, etc. En fait, ce palmarès des 200 meilleures ventes consacre les chanteurs installés, Julien Doré, Vianney, Kenji Girac, Francis Cabrel qui est cinquième. Alors pas de phénomène en revanche en 2020, pas de coup d'éclat comme a pu le faire Angèle en 2019. La chanteuse belge reste cependant dans le haut du panier à la 4e place. Deux rappeurs la précèdent, Maes et Ninho, ils ont 25 et 24 ans, ils affichent presque 300 000 ventes chacun.
Pas mal, hein.
Enfin, voici le numéro 1, les chanteurs, oui, car ils sont deux qui ont vendu le plus de disques en France l'an dernier.
Ça va, ça
et leur disque de duo Vénus. Alors, il est sorti en 2019, mais il a explosé en 2020. Palmarès complet dans le Figaro ce matin.
Slimane qui signe la nouvelle chanson des Enfoirés.
Qui s'appelle Maintenant.
Qui va être dévoilée là, aujourd'hui, demain.
Qui a été dévoilée hier sur les plateformes de stream, déjà.
Voilà, qui existe déjà. Donc voilà, on l'écoutera, tiens, dans les jours qui viennent sur Europe 1, cette nouvelle chanson des Enfoirés. Voilà, donc pour le classement des plus gros vendeurs de disques ou des artistes les plus écoutés.
Exactement.
En tout cas, Angèle, Julien Doré, Cabrel, Vianney. Et donc, Vita et Slimane à la première place. C'était le pressing du jour. Merci à tous les deux.